Bonjour, bienvenue sur Plan B. Vous avez accès à tous nos contenus sur le site www.planb.info avec un S à plan. Aujourd'hui, je reçois deux chercheurs dans le domaine de l'énergie, thème dont on parle régulièrement. Un épisode récent où on a parlé d'énergie, c'est avec Philippe Gauthier et Vincent Maillard sur les contraintes en approvisionnement en matériaux pour réaliser la transition énergétique. Et plus récemment, sur un autre thème, on a parlé avec Dorothée Moisan de plastique. Alors, c'est moins lié au sujet du jour, même si tout est lié. Aujourd'hui, je reçois donc Louis Delannoy. Bonjour Louis.
Bonjour Cyrus et bonjour à toutes celles et ceux qui vont écouter.
Tu es déjà venu sur Plan B pour nous parler de TRE, taux de retour énergétique, also known as EROI, Energy Return on Investment, pour présenter une étude que tu as publiée il y a plus d'un an. Sur le fait que, avec le taux de retour énergétique qui diminue, l'industrie pétrolière et gazière va consommer de plus en plus d'énergie juste pour produire de l'énergie et que les enjeux sont assez colossaux de ce point de vue. Aujourd'hui, on va parler. Alors, d'abord, tu es chercheur, tu étais chercheur à l'INRIA, on va dire dans le domaine des crises systémiques, y compris sur le sujet énergétique. Et tu as récemment rejoint le Stockholm Resilience Center, donc ce même centre de recherche qui publie les fameuses études sur les limites planétaires.
C'est ça.
Qui ne seront pas ton sujet au Stockholm Resilience Center, mais tu vas continuer à travailler sur les enjeux de crise multifactorielle, on va dire. Je reçois également Pierre-Jacques. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors tu es nouveau sur Plan B, enchanté. Tu es également chercheur alors dans le domaine de l'économie écologique à l'université de Louvain. Tu travailles également avec l'Institut Rousseau, donc Gaël Giraud, sur des recherches. Je vous laisserai l'un et l'autre présenter davantage au cours de la conversation vos domaines de recherche. En tout cas, on va parler ici d'un travail que vous avez réalisé qui est de nature interdisciplinaire, puisque dans l'équipe, il y a des économistes, il y a des ingénieurs, il y a des physiciens, avec notamment alors deux travaux, un à nouveau sur le taux de retour énergétique, le consensus qui émerge. Alors, le taux de retour énergétique, c'est quand même un domaine assez bazardeux. Hein. Quand on essaie de s'y retrouver, on en entend un peu tous les sons contraires. Mais là, vous avez réuni une bonne quinzaine de chercheurs, il me semble, en la matière,
23,
parmi
23,
les plus
24,
renommés.
même.
Combien?
23 ou 24, je me souviens
23 ou
plus.
24, d'accord, oui, j'ai pas bien dénombré. Oui, donc plus d'une vingtaine, avec tous les gens, enfin Charles Hall, Dr. Murphy, j'ai oublié son prénom, David Murphy, c'est ça, ouais.
David, oui.
Voilà, tous les grands pontes du domaine, et pour faire émerger un espèce de consensus malgré les incertitudes, donc bravo là-dessus. Avant cela, on va parler d'un autre papier que vous avez récemment publié. En gros, au vu du contexte macroéconomique dans lequel nous sommes, les investissements nécessaires, l'inflation, etc., réaliser une transition énergétique avec succès s'apparenterait quasiment à entrer dans une économie de guerre. Alors, sans forcément s'entretuer les uns les autres, mais ça s'apparente à une économie de guerre, et vous allez nous l'expliquer. Cela fait d'ailleurs écho à une intervention récente de François Ruffin qui tenait le même propos sur pour sauver le climat, en gros, il faut entrer en économie de guerre climatique. Lequel de vous deux je laisse démarrer? Peut-être Louis, si tu démarres sur un peu quelques enseignements de cette étude dont on va mettre le lien, évidemment, dans la description.
Oui, bah, tout à fait. Première chose à savoir, c'est que c'est une étude déjà qui a été faite avec six personnes au total. Donc il y a Pierre, Baptiste Andrieux du Shift, il y a Antoine Gaudin de Vrigny-Limmas de l'Agence française du développement que tu as mentionné. Et il y a aussi Hervé Jeanmar, qui est un professeur donc à l'Université catholique de Louvain. Plutôt spécialiste des questions énergétiques. C'est une étude qui se veut transdisciplinaire et qui s'intéresse à une question et une seule, c'est quelles sont les conséquences macroéconomiques du fait de réaliser une transition qui serait à peu près compatible avec l'objectif du 1,5 degré des accords de Paris. Voilà, assez sommaire. Donc pour répondre à cette question, et c'est là un petit peu la nouveauté de ce travail, un modèle a été développé, alors un modèle mathématique où on représente les interactions entre l'énergie, l'économie, la finance par des équations. On intègre un scénario où on force en fait la transition des fossiles aux renouvelables, et puis on estime ensuite les variables macroéconomiques qui en ressortent. Donc ça peut être l'inflation, dont on parle beaucoup aujourd'hui, le taux d'emploi, le taux d'investissement. Et effectivement, on s'aperçoit que si on veut faire une transition ambitieuse, on va dire quand même d'un point de vue climatique, à ce moment-là, on génère des dynamiques macroéconomiques qui sont inflationnaires, qui sont, on va dire, fort taux d'emploi, avec énormément d'investissements. Tu vas me dire, tout ça, c'est assez trivial, en fait. Effectivement, enfin, si on veut faire une grosse transition, eh ben, on a besoin de tout le monde, on a besoin de s'y mettre réellement. Donc, l'apport de cette étude, c'est d'une part d'avoir mis ça sous équation, mais d'autre part, d'avoir réellement intégré l'énergie dans un modèle macroéconomique, l'énergie surtout d'un point de vue donc, des taux de retour énergétique.
Pourquoi, alors j'ai tellement de questions, pourquoi est-ce que ça générerait tant d'inflation lorsqu'on dit par exemple que le coût par kilowattheure du solaire et de l'éolien maintenant sont compétitifs? Ce sont d'ailleurs les deux principales sources d'énergie qui sont mobilisées, bah pas que dans votre modèle, mais que tous les experts s'accordent à dire, c'est les deux sources d'énergie qui vont faire le gros de la transition. Alors même qu'elles sont compétitives, comment ça se fait que ça génère de l'inflation?
Alors on pourra discuter plus en avant des différentes incertitudes qu'il y a aussi, bien sûr, par rapport dans le modèle, et qu'on n'arrive pas totalement à capturer. Et donc, qu'est-ce qui génère de l'inflation? Et donc, il y a trois choses qui génèrent de l'inflation. Il y a en effet l'aspect coût du solaire versus, ou structure de coût du solaire éolien versus structure de coût des énergies fossiles. Ça, c'est une chose, on pourra discuter en long et en large. Et également l'aspect tension sur le marché du travail, ainsi que le bottleneck qu'on aurait en termes de capacité productive si on faisait une transition vraiment ambitieuse à marche forcée. Et donc, pour pouvoir détailler, plus discuter de cela et vous vraiment parler dans quel cadre on discute, je propose un peu de décrire le scénario au final qu'on modélise avec Temple. Donc, c'est quoi, comme disait Louis, la question qu'on se pose, c'est quelles seraient les dynamiques macroéconomiques qui seraient engendrées par une transition énergétique mondiale compatible avec le 1,5 degré d'objectif de l'accord de Paris. Donc, en fait, on n'a pas commencé à modéliser la transition de la France individuellement ou juste de l'Europe individuellement, mais vraiment, si on prenait le système monde, de manière un peu simplifiée, comme un seul système, comme un seul pays, on n'a pas la différence entre les différents continents ou pays, eh bien, si on faisait tous les pays ensemble, de manière plus ou moins coordonnée, une transition à marche forcée, quelle serait la dynamique qui serait engendrée pour pouvoir atteindre les net zéro émissions en 2050? Et donc pour faire, et en fait on se situe dans les simulations qu'on a faites, c'est important à préciser, on se situe dans un cadre où l'économie mondiale continuerait à croître, on aurait une croissance de en moyenne 3% par an jusque 2050-2060, et on modélise pas ce qui se passe après la fin de la transition. Et il faut aussi savoir que donc il y a différentes hypothèses qui sont prises, et généralement on a un peu, vu que c'est un modèle, il faut simplifier pour poser des hypothèses sur certains éléments pour juste cibler ce qui nous intéresse et juste discuter de l'aspect qui nous intéresse dans la transition. Donc en fait, ici, on a supposé donc un scénario dans une économie en relativement forte croissance, avec où on fait une transition uniquement vers le solaire et l'éolien, donc on considère pas les autres énergies, le nucléaire, on pourrait discuter de l'impact du nucléaire, ou la biomasse ou autre, donc c'est assez simplifié, même si il y a un consensus dans la littérature pour dire que dans un système mondial décarboné, un système énergétique décarboné, le solaire et l'éolien feraient clairement plus de 50% du mix, voire une très très large majorité du mix, il y a différentes possibilités, mais même si on prenait le nucléaire ferait grand maximum 25%, si on imagine un scénario ultra-nucléarisé, du mix énergétique mondial. Donc, considérer uniquement solaire et éolien, c'est déjà un très bon proxy sur ce à quoi ressemblera la transition énergétique en réalité, si on la fait effectivement. Et donc, on a fait d'autres suppositions. Donc, en fait, on ne prend pas en compte les... on considère tout ce qui se passe au sein du système énergétique. On ne va pas regarder en fait la difficulté qu'on a à électrifier les usages. Donc on considère ce qui se passe quand on change les moyens de production de l'énergie, donc on passe des énergies fossiles aux énergies renouvelables, mais on considère en fait que le reste, tout ce qui est en bas de chaîne, suit relativement bien. Donc on va pas étudier les difficultés qu'on aurait à passer aux voitures électriques quand on électrifie le système, ou les difficultés qu'on aura à électrifier certains processus industriels. On imagine que tout ça coule assez facilement, ce qui est très optimiste, bien entendu. On suppose aussi que les infrastructures énergétiques renouvelables sont très socialement acceptées, donc on n'a pas de difficulté à les déployer non plus, et que ça ne retarde pas la transition, ce qui est de nouveau assez optimiste. Et on ne considère pas tout ce qui est impact climatique. Donc, enfin, vu que c'est un scénario qui est compatible avec 1,5 degré de réchauffement, les impacts seraient moindres que dans les scénarios les plus catastrophiques du GIEC. Même s'il y aurait quand même des impacts importants, on les connaît déjà aujourd'hui. Mais on ne modélise pas leurs impacts sur l'économie. Donc, c'est à économie qui va, enfin, constante, enfin, en tout cas, à économie sans dommages climatiques, à quoi ressembleraient les conséquences de la transition, les dynamiques qui accompagnent la transition. Et ensuite, il y a tout l'aspect minéraux, l'aspect coût énergétique d'extraction des métaux. On pourrait revenir, mais qui n'est pas totalement incorporé dans notre périmètre. Et c'est évidemment un point qui est extrêmement important. On va y revenir. Et donc, quand on fait ce type de transition, donc on force une transition à marche forcée vers le renouvelable dans une économie en croissance, eh bien, ce qu'on voit, c'est que il faut aussi une chose qui est importante, c'est qu'on n'a pas considéré des valeurs, donc on s'est basé en fait sur le energy return on investment du solaire et de l'éolien comparé au energy return on investment, ou tout autre énergétique, des énergies fossiles, pour, sur base de ces calculs énergétiques, donc plutôt des données physiques d'ingénieurs, pour ensuite arriver à des calculs économiques sur le coût du renouvelable, les coûts d'investissement, les coûts d'opération, etc. au niveau mondial. Et ce qui est assez novateur dans notre étude, c'est que on considère en fait la manière dont, si jamais on fait une transition mondiale, on suppose qu'on va d'abord installer les panneaux solaires, les éoliennes aux endroits qui ont les meilleurs taux de retour énergétique. Donc par exemple, on va d'abord installer les éoliennes en mer du Nord ou à la pointe du Chili, les panneaux solaires idéalement d'abord dans le Sahara ou dans les côtés plutôt ensoleillés, avant de finir par les installer en Finlande ou dans des endroits où ils seront bien moins rentables énergétiquement ainsi qu'économiquement. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la manière dont le taux de retour énergétique ou le coût du renouvelable, ce qu'il faut investir pour avoir un joule par an de production de renouvelable, eh bien, comment ça se détériore au fur et à mesure de la transition. Donc au fur et à mesure qu'on sature les sites les plus venteux et les sites les plus ensoleillés, et qu'on doit progressivement se reporter vers les endroits qui sont moins intéressants, moins venteux, moins ensoleillés, avec un moins bon ROI, et donc où le renouvelable coûte comparativement plus cher, vu qu'il faut installer plus de panneaux solaires et plus d'éoliennes pour avoir une même production énergétique. Et donc, on a cet aspect un peu décroissant, enfin, si on veut, des rendements décroissants du renouvelable au fur et à mesure de la transition, qui rend la chose de plus en plus compliquée. Et donc, ce qu'on observe dans les simulations qu'on a faites, c'est que, donc, tout d'abord, c'est pas une surprise, le fait de passer à une infrastructure énergétique renouvelable, bien, ça demande beaucoup d'investissements, surtout des investissements qui sont en amont, vu que, l'énergie fossile, c'est relativement peu d'investissement en proportion en amont, mais par contre pas mal de coûts pour opérer le puits de pétrole, notamment des coûts énergétiques pour le faire tourner pendant qu'on extrait, il y a beaucoup de pertes dans le raffinage en aval, alors que le renouvelable, c'est davantage, on investit massivement en un coût pour la construction du panneau solaire, des moyens de stockage, oui, on prend aussi en compte tout ce qui est renforcement du réseau, moyens de stockage associés pour gérer l'intermittence des renouvelables dans nos calculs, et donc tout cet investissement dans l'infrastructure initiale, demande un gros investissement initial, et ensuite, une fois tout ça construit, ben en fait, c'est relativement très peu coûteux, en fait, d'opérer les panneaux solaires, les éoliennes, le réseau et les moyens de stockage, et donc tout l'investissement se fait en fait sous forme plutôt d'une bosse d'investissement dans notre scénario, si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050, la bosse d'investissement se fait autour de 2030. Et ensuite ça se calme, et il faut juste remplacer les infrastructures, les panneaux solaires, les éoliennes tous les 25 ou tous les 30 ans, et donc ça finit par se lisser relativement. Et donc en fait, pendant cette bosse d'investissement de la transition, ce qu'on observe, c'est que il y a énormément d'investissements à faire, bien plus que dans une économie basée sur les énergies fossiles. Et en fait, le secteur énergétique demande vraiment à s'accapare en fait une très grande partie des investissements dans l'économie, si bien que
l'effet d'éviction,
c'est ça, il y a un effet d'éviction. On n'arrive pas au pic de la transition dans une économie en croissance à la fois produire les panneaux solaires, les éoliennes, les réseaux électriques qu'il faut pour décarboner le système énergétique rapidement, alors même que la demande énergétique continue à croître, et en même temps continuer à produire tous les biens de consommation que l'on désire pour les ménages. Mmh. Et donc, au cœur de la transition, on a un réel effet d'éviction, et donc c'est là que ça s'apparente à une économie de guerre, dans le sens où on ne sait pas faire les deux en même temps, et donc il faut, en un sens, frustrer la consommation des ménages en termes de fraction du PIB, donc en fait, allouer une plus grande fraction du PIB, de la production industrielle, vers le secteur énergétique, au détriment de la consommation des ménages, et en fait, des ménages en général. Le taux d'investissement, donc la fraction du PIB qui est allouée à l'investissement dans le capital énergétique ou le capital productif autre, finit par atteindre, dans notre scénario, un niveau de 40%, et en fait un niveau de taux d'investissement de 40%, ça n'a plus jamais été vu en Occident depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on avait, enfin en tout cas aux États-Unis, au pic de l'effort de guerre, un taux d'investissement, donc la fraction du PIB qui n'est pas dédiée à la consommation des ménages et des entreprises, de 40%. Donc, en ce sens, ça ressemble fort à une économie de guerre, le scénario qu'on décrit.
Oui. Je suis en train de regarder les graphiques sur le site The Conversation, qui fait une vulgarisation de votre étude. Effectivement, le taux d'investissement explose jusqu'au milieu des années 30, après quoi il se réduit un petit peu, mais il reste quand même plus élevé qu'aujourd'hui. Donc, c'est une économie où on investit beaucoup et on ne consomme pas des masses. Il y a beaucoup d'inflation. Alors, j'étais un peu sur ma chaise, sur le cul, pardon pour l'expression, mais 10% d'inflation à partir des années 30, et ce, de manière chronique. Donc, pendant des décennies, on est à 10% d'inflation. Un taux d'emploi très élevé aussi, c'est-à-dire tout le monde bosse, même on a besoin des jeunes, des moins jeunes, enfin, vraiment le taux d'emploi explose. Mais tout ça, alors on parlait d'inflation, mais ce n'est pas une stagflation, parce qu'il y a quand même pas mal de croissance, il y a encore plus de croissance qu'aujourd'hui. On touche à des taux de croissance, je ne trouve pas le graphique, mais on se rapproche de 4% ou 3,5% de croissance. Peut-être je laisse Louis, à ton tour, réagir, préciser ce que tu veux.
Juste une petite précision sur ce qu'est Temple. Donc Temple, le nom du modèle. Temple a beaucoup de limitations, et là-dessus, je pense qu'on a été très clair dans le papier ou dans l'exposé que Pierre en a fait. Mais il a aussi un côté novateur dans le sens où c'est le premier modèle qu'on appelle stock-flux cohérent, qui est un type de modèle macroéconomique où on a une structure en fait comptable qui permet de retracer les transactions financières entre les différents acteurs qui font l'économie, qui intègre l'IROI en se basant sur des données qui sont calculées, on va dire, à un niveau local, et puis ensuite qui sont retravaillées au niveau global, donc des données qu'on appelle bottom-up, qui sont en fait, qu'on estime en tout cas plus robustes que simplement des données très agrégées, assez simplistes au niveau global. Il y a des limitations, mais il y a aussi des nouveautés. On peut aussi ajouter que tout ce que sont les modèles SFC, c'est des modèles qui se placent dans une école de pensée qui s'appelle le post-keynésianisme, qui n'est pas une école de pensée dominante. L'école de pensée dominante, bon, c'est celle, on va dire, plutôt néoclassique, qu'on va retrouver dans différents cercles dont on ne fait pas partie. On ne se retrouve en tout cas pas dans le néoclassicisme. Ça, je pense que faut vraiment être très clair là-dessus. Le post-keynésianisme, ça reste, même si, on va dire, il y a quand même des post-keynésiens en France très talentueux et qui font énormément de choses. Je pense à Jean-François Ponceau à Grenoble, à Éric Baer à Bordeaux, enfin plein d'autres. Franchement, on est assez chanceux en termes de pays d'avoir autant de post-keynésiens comme ça. Mais voilà, ce n'est pas un modèle macroéconomique qui fait consensus. Ça, il faut bien le souligner. On se place dans une école de pensée et comme toujours avec la science économique, je pense qu'il faut le préciser, il faut être ouvert là-dessus. Je reviens maintenant sur ce que tu as dit, ou alors je vais plutôt essayer de compléter, parce qu'effectivement, on obtient donc des taux de croissance en forçant cette transition, et on s'est aussi interrogé sur qu'est-ce qu'il adviendrait si on forçait en fait la transition, mais en réduisant d'une certaine manière, que Pierre détaillera ensuite, la croissance que peut avoir l'économie. En gros, si on contraint l'économie à grandir moins vite, qu'est-ce qui se passe au niveau de la transition? Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on observe que les dynamiques inflationnaires sont réduites si l'économie est en moindre croissance. Donc en fait, que la transition serait peut-être plus acceptable socialement et serait même peut-être facilitée si nous, en tant qu'économie, on se mettait d'accord pour, on va dire, essayer de grandir dans des proportions plus raisonnables. Ce qui ouvre en fait la porte à d'autres types de questions sur qu'est-ce qui se passe si on décidait de produire et de consommer moins. Donc on arrive là dans des scénarios de post-croissance. Est-ce que ça faciliterait la transition? Alors, Temple n'est pas un modèle qui a été designé pour répondre à ce type de questions, la décroissance. Là, il faudrait passer sur d'autres types de modèles. Ça fait du boulot, c'est bien, des nouvelles questions de recherche. Et c'est ce qui nous préoccupe aussi avec Pierre. Mais voilà, ce n'est pas une question à laquelle on répond, celle de la décroissance dans Temple.
Et en fait, le... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en termes de donc Temple, enfin comme dit Louis, c'est pas un modèle décroissant. Par contre, on peut discuter, enfin qu'est-ce qui se passe en termes de, enfin à quel point en fait le taux, enfin la croissance de l'économie, une économie qui croit fort ou pas, c'est un atout pour la transition ou au contraire ce serait un handicap. Je suis pas sûr qu'on puisse en tant que société décider de croître plus vite ou moins vite, enfin sauf si on décide vraiment d'avoir une voie radicale de décroissance, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, dans Temple, on a juste dit si en fait il y a une capacité, enfin les investisseurs sont plus frileux par rapport à l'investissement pour différentes raisons, par exemple si jamais il y a des dommages climatiques ou qu'ils sont juste refroidis par tous les effets adverses de transition, si ils investissent juste moins dans la nouvelle capacité productive. Mais qui il y a moins d'investissement, une économie un peu moins dynamique. Et en fait, comment se comporte l'économie? Quelles sont les dynamiques qui émergent dans ce cas-là? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux, en fait, plus ou moins de croissance sur la transition énergétique, ça a deux effets contraires. Alors, d'une part, si on a une économie qui est en plus forte croissance, eh bien, on a plus de capital productif, on produit plus de nouvelles capacités productives. Et donc, on a plus d'usines pour produire davantage de panneaux solaires et d'éoliennes, et donc on a une plus grande force de frappe pour faire une transition rapide. Et d'autre part, si jamais on croit plus rapidement, on a aussi la consommation énergétique de l'économie qui croit plus rapidement. Et à savoir qu'on a pris en compte, bien sûr, dans le modèle, les projections, les plus à jour de l'évolution de l'efficacité énergétique de l'économie, y compris en prenant en compte l'électrification. L'électrification qui amène des gains d'efficacité énergétique significatifs. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que malgré le fait qu'on a des gains en efficacité énergétique significatifs, bien en fait, le surplus de consommation énergétique lié à la croissance, du fait que l'IRO et les renouvelables se détériorent au fur et à mesure de la transition, qu'on a les meilleurs sites sont saturés, donc on doit, en fin de transition, les dernières éoliennes et les derniers panneaux solaires qu'on va installer sont sur des sites qui sont plus si intéressants que ça, et bien tout cela fait que une plus forte croissance économique est en fait un handicap pour la transition. On a plus d'inflation, on a plus un taux d'emploi qui est encore plus délirant avec une plus grosse croissance économique qu'avec une plus faible croissance économique. Et donc, en fait, on pouvait discuter avec le modèle juste de taux de croissance qui varie entre 3-4% et 1-2%. Et on voit qu'en fait, 1-2%, c'est largement préférable. En fait, juste pas tellement en termes de style de vie ou de sobriété ou même d'impact écologique, vu que si dans tous les scénarios on fait la transition, mais purement pour des variables économiques et des standards tels que inflation, taux d'investissement, etc. Eh bien, dans ce cas-là, dans le contexte de la transition, peu de croissance est préférable, ce qui est assez intéressant. Donc, c'est pas les arguments galants qu'on utilise.
Cyrus, je pense que tu as plein de questions, donc n'hésite pas à nous bombarder un peu.
Alors, intuitivement, surpris par les ordres de grandeur de la proportion, que ce soit de la population active ou des investissements à mobiliser pour réaliser la transition. Enfin, ça fait une grosse part de l'économie. Donc, c'est quoi qu'est-ce qui mobilise autant de monde? Parce que bon, là, le secteur énergétique, aujourd'hui, emploie quelques pourcents de la population mondiale. Bon, voilà, c'est pas des dizaines de pourcents. Et là, dans votre modèle, on voit que c'est, enfin voilà, rien que le taux d'emploi bondit de, je sais pas, 20 points de pourcentage. Alors, je l'ai plus dans les yeux, mais attends, disons le bon truc. Donc, par exemple, le taux d'emploi passerait, donc le taux d'emploi dans l'économie, quoi. Voilà.
Alors, attention,
environ 45% aujourd'hui à 65% demain. Donc, c'est quand même 20 points de pourcentage supplémentaire de population à mobiliser pour faire la transition énergétique. Alors, autant, bon, si on est en guerre, effectivement, faut des soldats, faut toute une industrie, faut construire des avions, tout ça. Là, bon, qu'est-ce qui mobilise autant de monde?
Le chiffre que tu mentionnes, c'est pourcentage de la population totale. Mm-hmm. Je le précise juste.
Oui, pardon, c'est le taux d'emploi mondial, donc effectivement le pourcentage de la population totale en emploi, qui du fait de la transition énergétique, enfin on mobilise 20 points de pourcentage supplémentaires de la population mondiale pour la transition, c'est ça?
Mmh. Donc en fait c'est le fait qu'on a une économie qui est en croissance relativement forte initialement, donc qui est déjà, une économie en relativement forte croissance, donc il y a un taux d'emploi qui n'est pas si faible que ça initialement. On vient y rajouter des investissements massifs pour la transition. Donc, en fait, c'est des investissements qui créent et qui dynamisent encore plus la croissance. Et donc, qui font qu'on a une économie qui croît encore plus vite et donc qui a besoin d'encore plus de main-d'œuvre. Et en plus, ces nouveaux investissements dans le système énergétique décarboné, eh bien, c'est des investissements qui sont très, très intenses en emploi, donc beaucoup plus intenses en emploi qu'un système énergétique fossile qui emploie au final assez peu de monde. Et donc, c'est cette combinaison entre croissance économique qui est plus forte et intensité d'emploi qui est plus forte également, qui fait que le taux d'emploi dans l'économie augmente énormément. Après, il faut dire que sur ce, ici, on a un ordre de grandeur, mais il y a des très grosses incertitudes sur le taux d'emploi qu'on obtiendrait réellement. Ce qu'on n'a pas trouvé, en tout cas, quand on a écrit l'article il y a un an et demi, d'études, en fait, qui donnaient des résultats assez détaillés, probants là-dessus. Il y a quelques estimations, mais ça reste, enfin, tout le monde est d'accord pour dire que la transition va créer beaucoup d'emplois, mais les quantifier, quantifier ça exactement, c'est assez difficile. D'ailleurs, je fais une petite digression. C'est intéressant de voir les études qui parlent de. Donc, à la fois, on était tous d'accord pour dire que la transition va créer beaucoup d'emplois. Combien exactement, c'est assez difficile à dire. Et tout le monde est d'accord, beaucoup de gens sont d'accord pour dire que tout ce qui est les aspects d'intelligence artificielle vont aussi détruire beaucoup d'emplois. Par contre, quand on regarde la littérature scientifique sur les emplois menacés par l'intelligence artificielle, on a un range qui va de 10% à 90%. Donc en fait, on n'a aucune idée
de l'emploi
qu'on aura demain dans l'économie en combinant ces aspects.
Ouais. Non, oui, j'imagine, c'est toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, on ne peut pas tout. Enfin, oui, oui. Non,
Mais c'est intéressant, c'est une question, c'est de l'incertitude. En fait, on n'a aucune idée de à quoi ressemblera le marché de l'emploi demain.
Tout à fait. Ces emplois, c'est quoi? C'est dans l'industrie. Alors, je ne sais pas si ça va dans cette maille-là, mais c'est dans l'industrie de fabrication et d'installation de panneaux solaires et d'éoliennes. C'est aussi dans le domaine de l'électrification. Enfin, qu'est-ce qui mobilise une telle force de travail où on est de l'ordre d'un milliard d'habitants sur Terre, quoi, ou des centaines de millions d'habitants qui seraient mobilisés pour réaliser cette transition.
C'est ça, c'est le fait de devoir construire une nouvelle infrastructure énergétique pour la planète entière. En un temps record, qui n'est pas un temps, je dirais, pas un temps habituel pour une transition. C'est jamais vu. Comme on le disait, non seulement il faut construire l'infrastructure, alors que pour transformer le système énergétique, alors que sa taille continue à croître, en tout cas que la demande énergétique continue à croître en même temps. Donc c'est pas juste décarboner, c'est à la fois le faire grandir. En plus, et aussi, bien sûr, c'est pas tellement compris dans l'étude, mais donc si jamais on considère qu'on est un peu trop, qu'on exagère un peu en termes d'emploi, il faut savoir que nous, on a pris surtout en compte l'aspect système énergétique, et donc en parallèle, Ce qui est sûr, qui va aussi faire gonfler les nombres, c'est tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments, en tout cas en Europe, et tous les autres aspects de la transition, aussi la transition agricole, etc., qui risquent d'être aussi intenses en emploi.
Et puis bon, j'essaie de voir aussi comment ça s'incarne dans des réalités un peu quotidiennes, mais que l'Afrique, dans ce modèle, ferait beaucoup de croissance. Enfin, ce serait une sorte de nouvelle Asie. J'essaie d'imaginer hein, comment ça s'incarne après. Beaucoup de jeunes Africains qui aujourd'hui sont des enfants seraient demain en emploi pour installer aussi cette infrastructure, parce qu'il y a toute une force de travail qui arrive aussi en Afrique. Et que, bah, effectivement, c'est aussi une transition. On fait pas que décarboner, c'est aussi, ça entraîne une croissance et ça entraîne un accès à l'énergie d'un continent qui aujourd'hui en est plutôt privé, dont la consommation est très basse. Et j'imagine que ça, ce genre de choses joue aussi, quoi, d'arracher des gens aussi de la précarité énergétique, d'entraîner de la croissance dans ces régions-là. Ce qui, pour le coup, est plutôt positif.
Oui, après, c'est vrai qu'il y a une vraie question en termes démographiques. Si jamais on fait cette. Enfin, on dit pas que la transition va se passer comme ça, mais dans un tel scénario, il y a un tel besoin en emploi qui est la main-d'œuvre demain viendra d'Afrique. Donc, il y a un vrai enjeu de. Ben, il y a aussi des aspects un peu migratoires. Enfin, il faudrait avoir plein de travailleurs détachés africains qui viennent installer des panneaux solaires et des éoliennes un peu dans le reste du monde où on aura moins de main-d'œuvre. Donc, ça pose des questions assez énormes en termes de démographique et en termes de mouvement de population et comment tout ça structure.
Et moi, je parlais aussi sur le continent africain même, c'est-à-dire,
aussi.
Enfin, j'imagine aussi pour faire 3-4% de croissance mondialement, à un moment, ça veut dire que, enfin, c'est pas l'Europe qui va faire cette croissance forcément, quoi. Parce qu'on est déjà en croissance très faible. Alors, justement, alors à quoi ressemble l'Europe en termes macroéconomiques dans ce. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure aussi il est régionalisé, mais comme si j'ai. Bien compris, vous tenez compte aussi de l'ensoleillement, des vents par région, et puis bah, plus le temps avance, plus on va dans des régions où le vent et le soleil sont désavantageux, enfin moins avantageux plutôt. Donc dans quelle mesure tous ces résultats assez macros sont
Bon,
régionalisés voilà,
tous les résultats là, dont on discute, c'est des résultats qui sont vraiment globaux. Donc en fait, le modèle n'est pas régionalisé. On va dire ce dont on parlait au niveau donc des courbes d'Heroy, ça vient à ta question. On fait l'hypothèse que les panneaux solaires, les éoliennes sont premièrement construits là où il y a donc le meilleur gisement. Comme le disait Pierre, donc ça va être les éoliennes à la pointe du Chili ou en mer du Nord, ça va être les panneaux solaires dans les régions ensoleillées. C'est sûr que c'est une hypothèse qui est limitante dans le sens où c'est un cadre hypothétique d'une certaine façon utopique. On avait discuté du nom du modèle, du nom du scénario. Et lors de ma soutenance de thèse, je l'avais appelé Écotopia, si ça te parle du nom du roman d'Ernest Kallenbach. Je sais pas
Non,
comment
je
ça
connais
se
pas.
prononce. Bon, c'est un super bouquin, je le conseille à tout le monde. Enfin, si vous voulez lire une utopie, mais une vraie utopie dans laquelle vous avez envie de vivre, vraiment, je le conseille à n'importe qui. En plus, c'est un bouquin qui date un petit peu, qui a été publié dans le même range d'années que le rapport Meadows. Et on sent qu'il y a une certaine affinité avec le rapport Meadows, ou plus grossièrement, l'état d'équilibre tel que pensé en économie écologique par Herman Daly ou d'autres. Donc voilà, Écotopia, lisez-le si vous avez envie de passer un beau moment, d'être optimiste. Et surtout, c'est un type de scénario, on va dire, voilà, utopique. Utopique parce qu'il n'est pas réalisable sur plein d'aspects. Mais quand même utopique dans le sens où si on pouvait l'avoir, eh ben, ce serait peut-être pas plus mal.
Et en fait, oui, pour reparler un peu du revenir un peu combiner utopie et taux d'emploi dont on parlait dont on parlait tout juste. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, en effet, vu qu'il y a des fortes tensions sur le marché de l'emploi, ça crée l'inflation, comme on le discutait précédemment. Mais cette inflation, elle vient en fait du fait de l'augmentation des salaires, parce que dans un tel scénario où les travailleurs deviennent essentiels pour faire une transition énergétique à marche forcée, eh bien, leur pouvoir de négociation salariale s'accroît considérablement. Et donc, dans le modèle, on considère le cas où le travail devient un peu un facteur limitant de la production, devient une denrée rare, et donc les travailleurs peuvent négocier des salaires beaucoup plus élevés. Et donc, on a une part des salaires qui réaugmente de l'ordre de, qui augmente fortement dans le PIB mondial, dans notre scénario, alors même que la part des salaires depuis les années 80 n'a cessé de diminuer, a perdu plus de 10%. Donc, en gros, la fraction du PIB qui représente les salaires a baissé de plus de 10% dans toutes les économies occidentales en 40 ans. Mais en fait, on regagne ces 10% avec la transition et grâce au nouveau pouvoir de négociation salariale des travailleurs dans notre scénario. Et en fait, ce type de dynamique où on a des travailleurs, on peut imaginer qu'ils seraient fortement syndiqués parce qu'ils auraient de nouveau beaucoup de pouvoir, en fait, ça ressemble pas du tout à une économie de guerre. Ça ressemble beaucoup plus à une économie de reconstruction écologique, en tout cas de la reconstruction post-guerre qu'on a eue pendant les Trente Glorieuses. Et en fait, à divers aspects, le scénario qu'on propose, c'est pas tellement de l'économie de guerre, ça ressemble plus à de la reconstruction écologique à une espèce de Trente Glorieuses de renouvelée, dans le sens où on a les travailleurs qui ont un pouvoir de négociation salariale qui est de nouveau très important. Ça contribue à créer de l'inflation et aussi le fait que juste que l'économie est très dynamique et qu'on a une capacité productive qui est très largement utilisée, voire qui est surutilisée, qui contribue aussi à créer de l'inflation. Donc cet aspect forte croissance, forte inflation, pouvoir de négociation de salariés important, ça correspond beaucoup plus en fait à la reconstruction post-guerre qu'à une économie de guerre en soi. Et d'ailleurs, Éric Monnet, le professeur, je ne sais plus dans quelle université parisienne il est professeur, qui soulignait le fait que l'économie de guerre, ce n'est pas tellement un terme approprié pour parler de la transition écologique, ou même pour parler du scénario qu'on décrit ici, parce que l'économie de guerre est toujours associée au court terme. Dans l'économie de guerre, il y a une réelle privation, donc ce n'est pas une sobriété qu'on a, c'est vraiment une privation, un moment où les besoins ne sont pas assouvis, et que c'est rendu possible, c'est rendu, en tout cas la population peut l'accepter, uniquement parce qu'il y a une promesse d'un retour à la normale. Alors que dans notre scénario, il n'y a pas de... Enfin, en effet, le pic de la transition entre 2025 et 2035 est un peu plus dur que le restant, mais l'idée, c'est d'avoir une transition permanente qui s'inscrit sur une génération entière. Et donc, ce n'est pas juste une économie de guerre temporaire associée au court terme.
Et si on détend le modèle pour tenir non pas les 1,5 degrés, parce que là, effectivement, la porte est tellement étroite que... mais on se dit, bon, ben, on détend pour tenir les 2 degrés. Est-ce que ça peut détendre quand même significativement, parce que la contrainte à 1,5 degré est tellement forte. Je pense qu'il nous reste 4-5 années d'émissions. Notre budget carbone, c'est 4-5 années d'émissions actuelles, quelque chose comme ça, peut-être même moins. Enfin, en tout cas, ça diminue chaque jour. Alors que pour les 2 degrés, on a 20-30 ans de budget. Est-ce que ça génère les mêmes phénomènes macroéconomiques?
Alors, la première chose à souligner, c'est que si on commence, on va dire, à relaxer un petit peu la contrainte climatique, il va falloir qu'on intègre alors dans le modèle, on va dire, une estimation des impacts du changement climatique sur l'économie. Donc, ça veut dire avoir des fonctions de dommages à la Nordhaus. Et là, on rentre dans un, on va dire, terrain qui est miné et sur lequel, bon, on n'a peut-être pas vraiment non plus envie de s'aventurer. Sans compter que on peut être plus ou moins à l'aise avec la théorisation de l'impact du changement climatique sur l'économie. Ça peut renvoyer des messages avec lesquels on n'est potentiellement pas en accord total. Donc, dans un sens, passer du 1,5 à 2 degrés va sûrement relaxer ou va sûrement rendre la transition plus faisable, mais dans le modèle, dans la vraie vie, ça peut être différent. Et là-dessus, on a des incertitudes qui nous semblent importantes. On réfléchit à des travaux qui peuvent faire suite à ce premier article. On est encore, on va dire, dans une étape exploratoire à ce niveau-là.
Ok.
Et par Pierre, un avis. Ce qui pourrait relaxer la difficulté, ce côté qui est quasi, économie guerre par certains aspects uniquement. En fait, une grosse incertitude qu'on a, c'est par rapport au coût des renouvelables. Donc, tu avais posé la question au tout début d'interview, quid du prix des renouvelables, en fait, qui est en train de baisser plus bas que les fossiles. Donc, il faut savoir que donc, nous, on a basé nos calculs sur des calculs de Energy Return on Investment, du coup, desquels on déduit le coût des renouvelables, mais ça colle avec les données économiques qu'on a en général, sauf qu'on s'est basé sur des données de Energy Return on Investment qui datent de 2018. Et en fait, ça commence déjà à être un peu... Et en fait, dans ces évaluations du taux de retour énergétique des panneaux solaires et des éoliennes à travers le monde, il y avait à la fois, on prenait les technologies avant-gardistes, donc qui n'étaient même pas encore déployées à l'époque, enfin, l'époque c'est 2018, c'était il y a 5 ans, et en se disant, voilà, on s'imagine qu'on ne va pas faire des progrès encore énormes à ce niveau-là, même s'il peut y avoir encore des progrès, mais on prend déjà les technologies avant-gardistes, avec les meilleurs rendements possibles. Mais d'autre part, on ne prend pas en compte le fait que quand on va déployer une transition, faire une transition massive, le coût énergétique d'extraction des minéraux va commencer à augmenter. Tu as déjà fait des podcasts là-dessus, les gisements de minéraux sont de moins en moins concentrés et donc il faut de plus en plus d'énergie pour produire les minéraux nécessaires à la fabrication des panneaux solaires des éoliennes. Donc on a deux effets. Un effet progrès technologique qu'on n'a pas complètement pris en compte et qui peut faire faciliter la transition, faire baisser le coût énergétique et le coût économique des renouvelables. Mais d'autre part, on a aussi un aspect minéraux, qui est aussi une grande incertitude, qui va probablement faire monter ces deux coûts. Et en fait, ce qu'on observe quand même, c'est qu'entre 2018 et aujourd'hui, le coût des panneaux solaires et des éoliennes, en seulement 5 ans, s'est effondré au-delà de toutes les prédictions qui avaient été faites. Donc, si on refaisait en fait l'étude aujourd'hui, avec les données de 2023, ce qu'on va peut-être faire, ce serait déjà moins difficile, en tout cas, on gagnerait beaucoup, vraiment beaucoup en termes de transition. Je pense qu'on pourrait enlever 30% au lieu d'avoir, j'en ai pas fait les calculs, mais de tête comme ça, j'ai l'impression que le taux d'investissement qui est 40% au pic de la transition pourrait être à 20-30%. Plutôt à 30%, plutôt à 35% qu'à 40%, voire entre 30-35%. Donc là où, au final, on se rapproche d'une économie qui est déjà un peu plus normale. Il faudrait refaire les calculs, mais sachant qu'il reste quand même l'incertitude sur le taux de retour énergétique des minéraux, enfin, le coût d'extraction énergétique des minéraux, qui lui pourrait augmenter beaucoup. Mais en tout cas, je dirais que dans les domaines de tous les gens qui s'intéressent à la transition, on est quand même tous vraiment extrêmement surpris par les progrès vraiment assez incroyables qu'on fait en termes de massification et de baisse du coût du renouvelable. Et ça donne quand même espoir à ce niveau-là.
Oui, je pense que le coût du solaire a été divisé par, je ne sais pas, 5 ou 10 depuis 10 ans, et certains estiment qu'il y a encore de la marge pour le diviser par 4 d'ici 2050. Donc, alors que pour l'éolien, peut-être qu'on arrive un peu à un plancher, ou alors du moins le gros des économies est peut-être derrière nous. Et aussi, on voit pendant cette crise énergétique aussi que l'éolien souffre un peu, alors que le solaire tient plutôt bien pendant la crise actuelle. Là, aux dernières nouvelles que j'ai pu voir, après l'avenir est très incertain. Chouette. Est-ce que vous voulez passer à votre étude sur le consensus émergent sur l'IROI, qui d'ailleurs empêchera pas de reparler un petit peu de l'étude sur l'économie d'hier, mais je voulais quand même qu'on en parle un petit peu, si ça vous va.
Ouais. On peut peut-être préciser un truc. Notamment sur le découplage du modèle, parce que je pense que c'est une question qui va revenir sinon assez fréquemment.
Oui, c'est vrai. On n'a pas prononcé ce terme encore de découplage. Oui.
Pierre, est-ce qu'on considère le découplage dans notre modèle?
Est-ce qu'on considère le découplage? Bon, oui, parce qu'on a une économie qui... En fait, oui, on a une économie qui croît et les émissions de CO2 qui tombent à zéro, enfin, du système énergétique, vu qu'il est entièrement décarboné. Par contre, avec plein d'hypothèses très simplificatrices, il n'y a pas d'aspect biodiversité, il y a uniquement l'aspect CO2. On l'a déjà dit, on s'imagine que, mis à part le coût d'installation des éoliennes, des panneaux solaires et des moyens de stockage, il n'y a pas d'autres coûts et que tout ce qui est en bas de chaîne suit gentiment dans la transition. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que dans un scénario assez stylisé, idéalisé, quel est le coût du découplage? Enfin, le découplage, s'il était possible, eh bien, quel coût économique il revient? Comme on le dit, ça, par différents aspects, découpler, ça revient à partir en une sorte de... à partiellement économie de guerre.
Mm-hmm. Et puis, on se base aussi sur des données, on va dire des tableaux entrée-sortie qui sont des, on va dire, une méthode où on va retracer toute l'évolution de la consommation physique des économies. Donc là, je fais notamment référence aux travaux de Baptiste qui nous ont aidés à rendre ce découplage quand même assez, comment dire, représentatif, où on plutôt, si on a du découplage, on essaie de le rendre le plus réaliste possible dans l'étude. Voilà. Je pense que sinon, il y aura eu pas mal de questionnements, donc peut-être dans les commentaires ou quoi, donc je préfère en parler directement. Faut pas hésiter non plus à nous contacter par la suite s'il y a différents points à éclaircir.
Oui, carrément. Merci pour ça. Alors j'en viens au consensus paper sur le taux de retour énergétique. Alors effectivement, 23-24 auteurs, donc il y a Louis Delannoy, un certain Pierre-Jacques, Baptiste Andrieux, il y a Mathieu Ozano, il y a Olivier Vidal, il y a David Murphy, après il y a Marco Rogéi, bon après il y a d'autres noms que je connais moins, Charles Hall, donc c'est le père du TRE. Alors, comment vous avez fait ? Parce qu'effectivement, c'est un domaine dans lequel on se dit, mais parfois l'impression pas d'un champ de ruines, mais quand même où on lit tout et son contraire, et que méthodologiquement, il y a des divergences entre ceux qui disent que le TRE des ENR est beaucoup plus bas que celui des fossiles et ceux qui disent que non, c'est exactement l'inverse, ceux qui disent qu'à partir, une fois qu'on commence à passer en dessous de 13-14 de TRE, la civilisation est plus soutenable, et d'autres qui disent non, tant que c'est au-dessus de 1, tout va bien, donc tant qu'on extrait plus d'énergie qu'on en investit pour avoir cette énergie, ça passe. Je sais pas, il y a probablement beaucoup d'autres choses, mais alors, comment déjà vous avez fait pour réunir tout ce beau monde et autour de quoi vous avez réussi à vous mettre d'accord ?
Alors, pour la petite histoire, ce papier trouve son origine dans une conversation que j'avais eue avec Mathieu Ozano, où on souhaitait parler donc de limites de certains modèles, notamment sur la représentation de l'énergie, et de fil en aiguille, on a préparé un premier papier sur donc ce consensus émergent autour de l'énergie, du TRE, qu'est-ce que ça veut dire pour la transition, puis pour les modèles. On l'a partagé à donc un premier cercle, un deuxième cercle de co-auteurs pour essayer de l'agrémenter. En fait, ça a pris presque un an à arriver à on va dire un format ou une version finale, avec énormément de modifications, enfin, même plus d'un an, en fait, je dis un an et demi. Parce que bon, 23 ou 24, là, ça fait beaucoup de monde. Surtout, comme tu le disais, Leroy, bon voilà, il y a pas mal de personnes qui vont en parler sous différents aspects, il y a toujours beaucoup de bruit autour de ça. C'était important pour nous de revenir d'une part sur l'évolution du débat autour de cet indicateur, aussi de ce qu'il voulait dire pour la transition, mais encore plus important, c'est quel est le lien, quel est vraiment l'apport de Leroy pour les modèles dits d'évaluation intégrée, qui sont en fait les modèles utilisé par majoritairement le groupe 3 du GIEC. Donc c'était un gros travail de mettre tout le monde, on va dire, de faire travailler tout le monde, d'avoir, on va dire, énormément de commentaires et de les traiter un à un, d'arriver à vraiment des phrases qui font consensus entre nous. On va dire que les personnes qui sont sur le papier représentent une bonne fraction de la communauté scientifique, enfin, en tout cas majoritairement, ça, je pense que c'est représentatif de la communauté. Par contre, comme tu le dis, il y a quand même des interrogations méthodologiques qui demeurent toujours. Il faut aussi préciser de quel type d'IROI on va parler, à quelle frontière, quel flux énergétique on prend. Enfin, il y a énormément d'hypothèses. Et finalement, le taux de retour énergétique, c'est un indicateur qui a connu pas mal d'entrain au début, ensuite beaucoup, on va dire, de propos qui étaient trop simplistes. On arrive aujourd'hui à une meilleure compréhension, et je pense qu'il faut encore dépasser ce stade-là, dans le sens qu'est-ce que cet indicateur peut vraiment dire, quelles sont ses limites, et vers quoi il faut se tourner ensuite pour, on va dire, améliorer notre compréhension de la transition énergétique.
Je n'avais lu qu'une version intermédiaire de l'étude. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a évolué depuis, mais tu m'avais gentiment passé une version intermédiaire. Un point qui semblait faire désormais consensus, c'est que le TRE des renouvelables est tout à fait...
TRE au point d'utilisation,
voire supérieur à celui des fossiles.
TRE au point d'utilisation, donc ça veut dire l'électricité qu'on reçoit chez nous pour un usage électrique, et ce même si on prend en compte les besoins de stockage de court terme, donc par exemple 8 heures. Oui, les renouvelables possèdent un meilleur TRE que les fossiles.
Un meilleur, ouais. Oui. Et en revanche, le TRE étendu, donc mettons dans un système qui serait essentiellement renouvelable, où là, je ne sais pas si alors, les capacités intellectuelles sont capables de modéliser un
travail. Toujours mais... en restant au point of use, au point d'utilisation, les fossiles là sont par contre toujours compétitifs pour un usage thermique. Il y a juste une certaine forme de biomasse qui arrive à être plus compétitive que les fossiles. Mais je pense que Pierre veut compléter aussi à ce niveau-là.
C'est juste pour préciser qu'en fait, dans les scénarios qu'on a décrits avec Temple, on prend ça, on est aligné avec le consensus au niveau de l'IROI, enfin le papier dont on discute ici, et qu'en fait, c'est la difficulté qu'on souligne dans les trajectoires décrites avec le modèle Temple, c'est pas les difficultés qui sont liées à l'IROI, c'est plus les difficultés qui sont liées aux aspects économiques. En fait. Enfin, c'est vraiment les interactions entre l'aspect énergétique et économique qui créent toutes les dynamiques de pseudo-économie de guerre. Et c'est pas juste le fait que l'IROI des renouvelables serait plus bas qui fait que la transition est difficile. C'est ça, c'est assez important à souligner.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points de consensus que vous avez réussi à dégager qui sont assez majeurs, enfin voilà, quand même une vingtaine d'experts en la matière, qu'est-ce qui est ressorti d'autre?
Bon, on va dire que ce qui est le plus intéressant de ce papier, c'est que les modèles d'évaluation intégrés aujourd'hui vont avoir tendance à être imprécis lorsqu'il s'agit de modéliser le secteur énergétique. Et surtout qui vont représenter, encore une fois, de façon simplifiée et avec des théories avec lesquelles on n'est pas vraiment d'accord, le lien entre énergie et économie. C'est-à-dire que les interactions du système énergétique sur le système économique sont là pour certains, mais vont être pas assez... puissante ou être un petit peu faible. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le cœur du sujet. Je pense que le papier, on va dire, fait une bonne synthèse en prenant des exemples de ces modèles d'évaluation intégrés, en regardant qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va moins bien. Sur, on va dire, l'énergie, hein, ça c'est quand même le point principal du papier, à savoir que ces modèles sont... on va dire, ont été énormément décriés ces dernières années, donc modèles et scénarios. Il y a des points d'amélioration, ça c'est clair, et les modélisateurs ont non conscience, pour avoir discuté avec certains directement, ils sont au fait quand même des limites de leur modèle, Et ils sont en train, il y a eu beaucoup de papiers en fait qui ont été publiés aussi là-dessus, là, ces dernières semaines, c'est tout récent, de s'interroger sur la refonte tant des institutions du GIEC que des scénarios et des modèles. Donc on est à un point qui me semble très intéressant et qu'il va falloir suivre avec attention.
Oui, effectivement, je retrouve aussi là, en reparcourant certains passages, le point qui est assez clé sur le fait que dans ce système de demain, on l'a évoqué aussi pour Temple, mais dans ce système énergétique de demain qui est quand même qui repose de manière plus importante sur des minéraux, alors enfin donc sur les plus intensives en métaux. Alors pour les panneaux solaires et pour les éoliennes, mais aussi pour les unités de stockage, les batteries électriques, puis les réseaux. Enfin voilà, on va avoir aussi un système plus intensif en réseau électrique pour connecter tout ça, toutes ces unités décentralisées. Et que ben, il y a quand même une variable qui est assez importante, qui est la concentration de ces minerais dans la croûte terrestre diminue, donc il y a besoin de plus en plus d'énergie pour avoir ces métaux. Et donc là-dessus, forcément, il va y avoir, dans ce cas, besoin de plus en plus d'énergie. Pour avoir cette même énergie à la sortie, une fois qu'on commence à taper dans les mines de moins en moins concentrées. Je dis pas de bêtises en disant ça. Enfin, c'est un point assez clé, non, quand même, de la réussite ou non de cette transition.
Et il y a
Oui, alors,
surtout.
plus pour certains métaux que d'autres. Hein, là, bon, j'enjoins tout le monde à regarder peut-être l'interview d'Olivier Vidal sur Urban Metabolism qui m'avait fait moi, assez plaisir parce que je pense qu'il est tout à fait juste dans ses interventions, enfin, même ses autres travaux. Moi, je dis ça parce que on collabore aussi. Donc, je vends nos travaux à ce niveau-là, mais Olivier est géologue de formation, donc il a quand même un esprit tout à fait taillé pour répondre à ces questions.
Ouais, je vais mettre le lien vers son interview que je n'ai pas vu sur Metabolism of Cities, donc
Oui,
Olivier
c'est ça.
Vidal, qui est effectivement un de
C'est ça,
nos
c'est ça.
experts nationaux sur le sujet, qui est récemment passé sur Green Letter Club aussi, chaîne que je salue également, qui est excellente. J'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent, abonnez-vous hein, sur Plan B si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Comme ça, je fais un peu d'autopromotion aussi, mais oui, si vous passez par ici par hasard et que vous avez aimé, abonnez-vous pour continuer d'être. Que l'algorithme vous pousse nos vidéos et nos podcasts. Des mots de conclusion, messieurs, oui, on approche de l'heure. Bon, après, les papiers sont accessibles, les liens sont dans la description YouTube ou podcast. Ouais, voilà, bon, je vous laisse conclure librement.
Vas-y Pierre, tu
Oui, mais
commences.
ce qu'on peut en dire, c'est que, enfin, en tout cas, c'est que là, bon, il y a quand même encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les quantifications exactes des différents éléments liés à la transition, taux d'emploi, on a discuté, type de taux de croissance de l'économie, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les différentes tendances sont assez claires. Donc le fait que la transition, enfin, les investissements, la transition sont importants, le fait qu'il faut vraiment mobiliser, enfin, que le système énergétique va grandir en importance, et donc il faut vraiment mobiliser beaucoup d'énergie de travail, enfin de personnes travaillent dessus, etc. Pour le système énergétique, donc enfin un peu cet aspect de reconstruction écologique extrêmement, enfin qui demande des moyens assez colossaux. Ça, je pense que c'est ce genre de tendance-là est assez, enfin se fait de plus en plus se rapproche du consensus. Mais bon, donc c'est intéressant de voir que il y a une certaine convergence autour de cette idée de à quoi ressemblerait la transition. Et après, pour moi, les aspects vraiment qui questionne, moi, c'est vraiment toutes les questions de post-croissance, décroissance. C'est là qu'il y a le plus d'interrogations qui se posent pour moi, mais surtout au niveau, je dirais, même sociétal. C'est pas de la modélisation scientifique, c'est quel choix de société on va faire à l'avenir et qui vont déterminer vraiment radicalement le type de transition qu'on aura.
Louis.
Lisez Cotopia, ça fera du bien à tout le monde.
Non, tout à fait.
Voilà.
Non, en tout cas, merci pour vos travaux parce que je trouve que bah aussi c'est des choses que j'avais pas l'habitude de lire aussi, même de faire le lien entre ces différents sujets. Je trouve que ça repousse aussi les frontières des questions qu'on se pose et des connaissances qu'on apporte. Enfin, en espérant bah, que ça fasse voilà, que ça soit intégré aussi dans le travail du groupe 3 du GIEC, donc celui sur l'atténuation du changement climatique, qui comporte aussi des analyses économiques, mais effectivement, je pense que les conclusions qui sont que les implications économiques, ça commence à s'apparenter à une économie de guerre, je pense que ça mérite quand même de l'attention. Merci en tout cas à tous les deux, et puis je vous dis à une prochaine fois.
Merci à toi de m'avoir invité, c'était
au revoir.
Très sympa.